Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler.
Ah, c'est pas faux.
Non, non.
Oh, pinaise, oui.
Pas ça, non.
Dites mon nom.
Non, non,
non. J'ai appelé Internet et leur demandé de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes.
Merci, 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 merci. Écoutez, je dirai pas loin, comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip, bip.
Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui. Dans la collection du moment, on explore l'univers d'X-Files aux frontières du réel, une des séries qui a marqué les années 90. La semaine dernière, on vous a plongé dans les coulisses de la création en brossant le portrait de l'équipe de scénaristes et de réalisateurs emmenée par Chris Carter. Aujourd'hui, pour le tout dernier épisode de cette collection, on fait le bilan et on s'intéresse à tout ce que la série a laissé derrière elle. Pour ce tout dernier tour d'horizon, j'ai le plaisir de retrouver Julien Dupuis. Salut Julien.
Salut Clémence.
Et Rafik Djoumi. Salut Rafik.
Salut Clémence.
Alors aujourd'hui, donc, c'est l'heure du bilan avant de fermer la boutique. X-Files a définitivement tiré le rideau le 21 mars 2018 après deux saisons de revival. Un revival plutôt raté, hein. On va revenir dessus. Alors donc la saison, en fait, la série s'arrête plutôt à la fin de la saison 9 en 2003. Et puis, plusieurs années après, X-Files est relancé pour deux saisons.
Mais déjà, elle s'arrête pas très bien, c'est pas très propre. C'est-à-dire qu'elle s'arrête avec des audiences qui sont en berne, qui
avec descendent. Les pires audiences jamais enregistrées par la série.
C'est complètement dégringolé et au fil des ans. Entre temps, il y a un deuxième film, on va en parler tout à l'heure, je crois, qui est très très mal reçu aussi et qui est très mauvais, hein, faut le dire. Mais X-Files étant X-Files, c'est-à-dire qu'on va aussi en parler, il y a un vrai héritage de X-Files, il y a des gens qui vont se réclamer de cette série et qui vont émerger sur le devant de la scène. Eh bien, évidemment, puis on est aussi dans une époque où, de toute façon, on a beaucoup de mal à admettre que des choses sont terminées. Ça y est, c'est fini. Non, c'est l'éternel retour. On est toujours là-dedans actuellement. Donc, ils vont essayer de faire revenir X-Files et c'est une très mauvaise idée parce que les deux acteurs ont vieilli et ont chacun tracé leur route dans leur propre série, ont développé leur propre truc. Et puis leur relation, il y a plus rien de pur en fait là-dedans. C'est-à-dire que l'idée de base sur laquelle ça fonctionnait, c'est tout est paumé, c'est-à-dire que le couple Mulder-Scully s'est mis ensemble. Là, ils se sont séparés au début, je crois, de ces revivals. Et puis il y a un truc qui que je trouve un peu rude aussi, c'est que Chris Carter a vieilli dans son appréciation de tout ce qui se passe dans la société et de la culture pop qui peut faire vibrer les gens. C'est-à-dire que voir ce revival, alors qu'en parallèle, t'as une série comme Black Mirror qui a émergé, c'est vachement dur, en fait. Ça n'a plus lieu d'être, déjà, X-Files. Il n'y a plus de place, en fait, pour eux. Et puis, ils courent après le truc, quoi. Et il y a un dernier truc aussi, ils courent après la mode, quoi. Et il y a une dernière chose aussi, qui est le rapport à la conspiration, qui est plus du tout la même, je trouve, aujourd'hui, où, justement, Internet, tout ce que X-Files avait commencé à mettre en place dans les années 90, ça s'est installé avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, et c'est très, très compliqué, en fait, de faire un truc, avec un positionnement simple et pur sur ces questions-là aujourd'hui. Et tu le sens tout de suite. C'est-à-dire que le nouveau équivalent en fait de Gorge Profonde qui arrive, c'est un bordel, lui, sa mise au point, c'est d'une complexité folle, pour dire en substance, enfin, des choses qui vont aller à l'encontre, finalement, de la série. Donc,
D'ailleurs qu'on était parti de la vérité est ailleurs pour effectivement arriver à la vérité est nulle part dans la saison 10. Et le personnage auquel Julien fait référence et son discours un peu confus. C'est vrai que c'est une tentative de parler de ce que d'autres sociologues ont pu mettre en place auparavant, hein, qui était cette idée que la société est rentrée dans la post-vérité. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a plus de vérité dans ce monde, dans une société de l'information où, en fait, le vrai et le faux se sont tellement entremêlés et influent chacun à leur façon sur le réel, puisque le fait est on vit dans l'ultra communicabilité de cette société fait que quelque chose de complètement imaginaire faux peut avoir des conséquences concrètes à très grande échelle qui font que ça devient vrai par la force des choses. Bon, bref, et que la quête d'un, comme le dit Julien, innocente d'un Mulder dans les années 90, elle bute en fait devant ce mur. Mais ça, c'était aussi présagé, je pense, j'imagine que on a prévu d'en parler par le spin-off qui avait été fait de X-Files, qui s'appelait The Lone Gunman, donc qui était consacré à ces trois conspirationnistes, on va les appeler comme ça, trois informaticiens hackers, voilà, obsédés par les secrets du gouvernement, dont le premier épisode s'est retrouvé malgré lui complètement rattrapé par l'actualité, par le monde, puisque le Lone Gunman a démarré sa diffusion en mars 2001 avec un épisode dans lequel ils essayaient, les trois informaticiens, de déjouer un complot gouvernemental visant à envoyer des avions dans le World Trade Center en faisant passer ça pour un acte terroriste islamique. Donc, et on arrive au 11 septembre 2001 et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe là?
C'est très intéressant ce que dit Rafik. Chris Carter l'a dit, en fait, ça. Il a dit, de toute façon, X-Files, c'est très compliqué de faire exister X-Files après le 11 septembre. C'est voilà, et je pense que voilà,
et là on a
un truc,
on a une fiction qui devient sur la conspiration, qui devient elle-même conspirationniste en prévoyant en sentant venir un événement aussi déterminant dans notre réel, tu vois. Donc effectivement, on est sur le plan créatif, t'es coincé, quoi.
Ça marche plus.
Il y a un épisode d'ailleurs de Lone Gunman qui s'appelle Jump the Shark, et je pense que c'était une façon de dire on est allé trop loin avec ce concept.
Mais oui, alors cette série, les Lone Gunmen, bah, autant en parler maintenant. Elle ne va durer qu'une seule saison. Hein. Elle reçoit des critiques positives, mais effectivement, les audiences chute assez rapidement et finalement la série est annulée. Lone Gunman, à la base, édite un journal qui fait écho aux théories conspirationnistes, et ce sont des alliés de Mulder et Scully. Alors ils sont au nombre de trois, chacun a sa spécialité. Il y en a un qui est très doué dans les sciences, c'est Byers, l'autre qui est un crack en électronique, Froehlich, et celui qui s'y connaît en informatique, c'est Langley.
Oui, tout à fait, et ils sont comment dire, comme on en parlait donc dans un épisode précédent, ils nous sont présentés de la façon la plus sympathique d'une certaine façon dans les années 90, voilà, mais effectivement,
mais c'est le point un peu plus extrême que Mulder quand même. C'est sympathique, c'est vrai, mais ils sont un peu plus extrêmes que Mulder, ce qui, je pense, va aider aussi à l'identification.
Voilà, dans l'entrée du 21e siècle, il va y avoir l'impact concret de ces, je sais pas comment les appeler, parce que c'est pas uniquement des hackers, c'est de ces fouineurs spécialistes de la théorisation, on va dire, vont avoir des conséquences sociales telles que ça sera de plus en plus difficile de leur donner le beau rôle, en fait. On a vu ça avec le phénomène des Anonymous, à une époque qui était vu presque comme des héros, des espèces de Zorro informatiques, avant qu'ils deviennent maudits par le public, quoi, comme étant des gens au contraire dangereux et déstabilisateurs. Donc c'est voilà, enfin, comme le dit Julien, l'a résumé en disant, c'est ça devient compliqué expliquer, on ne peut plus approcher ces choses-là, ces thématiques-là avec innocence.
Et puis, c'est des personnages qui te servaient à introduire tout ça aussi. C'est-à-dire que tu peux pas avoir une série qui est dans son époque, aussi bien dans son époque dans les années 90, et réutiliser les mêmes personnages, je pense, hein, d'introduction, ça marche plus comme ça. C'est-à-dire que je pense que moi, je mettrais plus en parallèle, si je reste dans le domaine de la fiction, avec ce qui se passe avec Matrix, en fait. C'est-à-dire que tu peux, à partir du moment où t'as présenté un personnage comme Neo, qui fait ce qu'il fait avec l'informatique, qui est présenté comme ça, dans son rapport au pouvoir, son rapport au savoir, etc. C'est vachement compliqué, en fait, les Lone Gunmen. Ils appartiennent à une autre époque, en fait. Ils appartiennent vraiment à l'époque où le net, on sait pas trop ce que c'est, hein. On n'a pas conscience, en fait, complètement de ce que ça peut, apporter. Et puis, il y a un autre truc aussi qui est ce truc de, bah, la série d'élite. Parce que finalement, Millennium et The Lone Gunman est présenté plutôt comme une série humoristique, en fait, à la base, par Chris Carter. Et en fait, alors que Millennium est présenté comme une série plus horrifique, plus noire, plus sombre. Et finalement, alors c'est plus compliqué que ça, hein, mais il prend deux composantes finalement de X-Files et il essaie de les grossir. Mais ça se voit. Enfin, je veux dire, il y a un truc aussi dans le récit, dans le cosmos X-Files, qui est, au bout d'un moment aussi, je pense, qui est dévitalisé. C'est-à-dire que tu peux travailler au corps ces trucs-là jusqu'à un certain point, quoi.
Ouais, c'est vrai que, alors, Millennium, on n'en a pas encore parlé, c'est l'autre série dérivée d'X-Files.
Celle qui tient le plus à cœur à Chris Carter, d'ailleurs. Voilà. Et d'ailleurs, c'est vraiment son truc d'auteur, en fait.
Qui a duré bien plus longtemps que Lone Gunman, puisque.
Trois saisons,
67 épisodes, diffusés de 96 à 99. Et on y découvre donc Frank Black, ancien agent du FBI, on revient sur le FBI, qui enquête sur des crimes très sombres pour le compte d'un groupe privé. Et cet agent du FBI, il possède un don surnaturel qui lui permet de voir à travers les yeux des meurtriers et des tueurs en série.
C'est le sixième sens déjà. Mais le
sixième sens, oui. Enfin, Manhunter de Michael Mann.
Ouais. Mais oui, pas le Shyamalan. Mais oui, c'est on parlait aussi. Alors je crois que c'est dans l'épisode précédent de ce truc de X-Files qui était entre le silence des agneaux et Seven et Millennium appartient vraiment à cette mouvance aussi. Enfin, en tout cas, il sort dans cette mouvance, cette appétence tout à coup du thriller policier pour les tueurs en série. Et mais avec alors là, Carter va aller quand même très loin, hein, dans la noirceur, surtout sur le premier épisode qui, pour mémoire, n'est pas diffusé en France tellement il est sombre et violent. C'est-à-dire que quand la première fois que Millennium est diffusé en France, il commence par le deuxième épisode. Donc c'est au niveau respect de l'œuvre, c'est quand même limite.
En même temps, il y a souvent des épisodes qui n'ont pas été diffusés dans le bon ordre.
Bien sûr, ça a été un vrai bazar. Mais et le truc qui était la promesse qui était intéressante, hein, d'ailleurs, hein, sur Millennium, c'était aussi de profiter de l'arrivée de l'an 2000 et donc de travailler au corps tous les fantasmes, en fait, qu'il y a eu autour des ans 2000, qui allait du truc le plus bénin, mais qui était très pris au sérieux, parce que moi, je faisais mon service à l'époque par l'armée française, qui était le bug informatique de l'an 2000, tu vois, mais ça allait sur des peurs, disons, plus mystique, quoi. Et Carter avait cette idée.
On appelle ça le chiliasme ou le millénarisme.
Le millénarisme, voilà, c'est ça.
Arriver à une date qui va faire bousculer.
Exactement, tout dans. Et Carter, vous pensez travailler là-dedans, donc il a encore plus nourri Millennium, même dans son titre. Hein, les deux M, c'est des M majuscules qui font référence aux 1000 romains. Donc tout est travaillé au corps comme ça pour travailler sur les symboliques et trucs à la Nostradamus, quoi, ces machins bourrés de symboles qui te permettent de prévoir tout et prédire tout et n'importe quoi. Et je trouve que c'était une bonne idée, mais la série n'ira pas jusqu'au bout, ne pourra pas aller jusqu'au basculement dans l'an 2000. Du coup, ils font revenir du coup ce personnage dans un épisode qui s'appelle Millennium aussi, d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, dans X-Files. Ils font revenir le personnage de Lance Henriksen là-dedans. Et encore une fois, Lance Henriksen, Chris Carter va devoir devoir se battre pour l'avoir. C'est une super idée d'avoir Lance Henriksen, qui est
donc
un super
comédien. Voilà, avec Lance Henriksen d'un côté et Robert Patrick de l'autre qui remplaçait
Il est probable qu'il aime bien James Cameron.
On pense que le Terminator verse et le X-Files verse sont très proches les uns des autres.
C'est clair. Parce que Lance Henriksen fut un des acteurs fétiches de
Cameron et devait jouer le Terminator.
Il devait jouer le Terminator. Il est dans le Terminator. Il fait un des deux flics. Il joue Bishop, l'androïde dans Aliens, le retour. Et puis voilà, quoi. Il a une tête incroyable. Moi, j'aime beaucoup cet acteur. J'aime beaucoup ce comédien. Mais peut-être que Rafik, tu as des choses à rajouter sur Millennium.
Non, c'est qu'effectivement, j'aurais aimé que la série soit à la hauteur de ses ambitions millénaristes, c'est-à-dire d'avoir quelque chose d'effectivement très inquiétant qui rejoigne l'inquiétude bien concrète et bien réelle de la sensation de crise qu'on avait en 99-2000 à l'approche de ce siècle qui ne se présentait pas du tout comme on l'avait rêvé gamin, quoi. On savait déjà que ça allait être un peu pourri, quoi.
Les Rika, tout ça. Mais y a quand même un truc aussi où, mine de rien, je pense que Millennium a quand même un peu aussi fait bouger les lignes. C'est-à-dire que moi, j'ai souvenir de ce truc où c'était quand même une série qui avait brisé des tabous. Tu n'avais pas vu vraiment de série aussi glauque, aussi sombre, aussi voilà, auparavant. Je pense que ça a aussi permis de faire changer un tout petit peu les choses, mine de rien aussi quand même, Millennium dans son échec. Et puis ça reste, je crois que le premier épisode d'ailleurs c'est le plus gros, enfin peut-être le plus gros temps de tournage dont a bénéficié Chris Carter, c'est lui qui l'avait tourné. Et c'est un peu l'œuvre maudite entre guillemets de Chris Carter, mais tous les auteurs comme ça, ils se définissent aussi par l'œuvre mal aimée mais qu'un peu noyau dur de fans continue à aimer. Et lui, voilà, c'est ça, ce sera Millennium.
Alors, d'autres œuvres qui n'ont pas forcément été appréciées plus que ça, on va en parler, c'est les films. Donc tout d'abord, X-Files, le film sorti en 98,
événement. C'était un événement. Ouais. C'est pareil, il faut replacer les choses dans son contexte. C'est un film qui a été tourné sous le sceau du secret, un sceau du secret délirant. Je veux dire, après on reverra ça et ça deviendra monnaie courante avec les âneries de J.J. Abrams, par exemple. Mais voilà, c'était le truc où tu entendais dire, ah là là, les acteurs, ils ont pas eu les dernières pages et tout. Et attente monumentale, du coup, est complètement déplacée autour du film sur quel grand secret, quel amour. Enfin voilà, on en a déjà parlé dans les précédents épisodes, tout ça pour te livrer un truc qui finalement n'avait livré aucun grand secret, ne révélait rien sur leur amour, ne faisait rien basculer.
Mais démarrer par une
scène qui était excellente, qui était une retake d'ailleurs.
Mais surtout qui mêlait un réel proche à X-Files, puisqu'on avait eu cet attentat d'un immeuble fédéral.
Ah, tu penses à ça? Moi, je pensais à la séquence pré-générique qui se passe pendant la préhistoire dans les glaciers avec un homme des cavernes qui se bat contre un alien, qui est vraiment une image de pulp, quoi. Moi, je sais, quand j'ai vu ça, je me dis, waouh, un homme des cavernes et qui se bastonne avec son silex entre les dents avec un alien, c'est trop cool.
La scène d'ouverture,
avec l'explosion.
Met en scène, effectivement, l'explosion d'un immeuble fédéral, alors qu'il y avait eu cet attentat, c'était en 93, hein, l'attentat à Oklahoma, dans lequel un immeuble du FBI s'était mystérieusement écroulé. Et de voir.
Qu'est-ce que tu suis bonheur par là, Rafik Djemri?
Qu'on nous cache tout et qu'on nous dit rien.
La
vérité est ailleurs. Mais c'était très frais dans la mémoire du public, surtout du public américain. Ouais, parce que on n'avait pas eu le 11 septembre. Hein, donc cette image d'un gratte-ciel s'écroulant comme ça, c'était un truc très télévisuel, quoi. Recréé, donc, pour les besoins du film. Et je trouve d'une façon assez efficace. C'est-à-dire que la séquence était plutôt bien faite.
Mais c'est bien fait. C'est un film très honorable, moi, je trouve. Ça reste donc un espèce de grand épisode de luxe. Ce n'est pas le marqueur que les gens espéraient que ce soit. Mais par exemple, moi, je trouve que la musique de Mark Snow est vraiment cool, quoi, dans le film. C'était inattendu, parce que franchement, moi, ce qu'il a composé à part le générique, j'ai jamais trop aimé ce qu'il a fait, moi, Mark Snow. Mais dans le film, c'était plutôt pas mal ce qu'il avait fait. Et le film est de bonne facture, comme on dit quand on est un critique pas très inspiré. Mais c'est vrai, c'est bien fait. Il y a des beaux effets visuels et des effets aussi de maquillage de Alec Guinness, Tom Woodruff fonctionnaient du feu de Dieu. Rob Bowman a fait du travail de pro, quoi. Il y a Martin Landau qui est un équivalent de Gorge Profonde, qui est super. Il y a un personnage en plus assez touchant. T'as John Neville qui revient, qui a un rôle un peu plus étoffé que dans la série. Moi, je trouve que c'est toujours un acteur qui est impeccable et je le trouve assez chouette en plus.
Et Armin Mueller-Stahl qu'on a plus vu après, mais qui venait du film de Costa Gavras, la Music Box aussi, qui a un visage assez
marquant, assez marquant. Et puis je trouve aussi que c'était aussi l'occasion pour la série de rendre hommage de façon un peu plus fine, je trouve, à un auteur qu'on n'a pas forcément cité, qui est Steven Spielberg. C'est-à-dire que les Rencontres du Troisième Type, c'est évident, tu vois. Enfin, c'est le prédécesseur total. Bon, c'est un chef-d'œuvre. X-Files n'est pas au niveau de Rencontre du Troisième Type, je pense. Mais voilà, il y a un précédent qui est très fort avec Rencontre du Troisième Type, qui avait déjà brillamment travaillé sur tous ces trucs-là, que ce soit le complot, qui est un truc qu'on oublie un petit peu parfois de Rencontre du Troisième Type, mais qui est hyper présent pourtant dans le film. Mais ce truc du complot, ce truc d'aller contre l'État, de l'importance de l'individu et de la volonté de croire en un ailleurs, avec cette volonté de trucs un peu spirituels, hein, puisque Rencontre du Troisième Type cite clairement les 10 commandements de Cécile B2000, ce n'est pas un hasard. Et là, il y a ça aussi dans la fin, notamment dans cette séquence où Mulder voit la soucoupe qui vole et où c'est valorisé, ça, et qui est, moi, je pense, un truc qui vient des Aventures de l'Arche Perdue. Oui. Où tout à coup, on te dit, toi, spectateur, on te fait comprendre qu'on te donne à voir un truc que tu devrais pas voir et que c'est une chance de le voir. Et c'est un mécanisme qui finalement n'est pas tant usité que ça au cinéma, et que moi je trouve qui fonctionne très très bien, qui a été brillamment donc exploité par Spielberg dans Les Entendus Perdus, qui est là à la fin. Et puis cette volonté aussi de faire de la SF horrifique, avec ce côté Lovecraftien, notamment dans cette espèce de navette. Donc enfin, on apprend que c'est une navette, je vous ai spoilé le film comme un cochon, mais et qui est vraiment une espèce d'enfer glacial. Encore une fois, on pense à The Thing de Carpenter, mais cette espèce d'enfer glacial et cyclopéen, c'est-à-dire ce côté grand spectacle horrifique, étouffant en même temps, ça fonctionne bien, je trouve, dans le premier film. Et là, vraiment, la référence aussi à Lovecraft, je trouve qu'elle est parfaitement pertinente, quoi. C'est-à-dire que s'il y a un truc des, voilà, il y a un peu de montagne hallucinée là-dedans, je trouve, quoi, en tout cas.
Alors le film finalement fonctionne plutôt bien auprès du public, hein. Il rapporte 189 millions de dollars au box office contre un budget de production à 66 millions de dollars, donc
ce qui était confortable,
hein, voilà. Confortable. Ah ouais. et assez inédit. C'est pas la première fois qu'une série devient un film avec les comédiens de la série, j'entends, parce qu'il y a plein de séries évidemment qui se passent au cinéma, mais entre deux, il s'est passé 10, 15, 20 ans et surtout les comédiens sont plus les mêmes. Donc là en fait le passage au grand écran, comme on dit, a été effectif. Ouais.
Voilà, ouais, alors
en plein milieu de la série, c'est vrai que c'est assez exceptionnel, ça montre encore une fois bien à quel point c'était un truc énorme.
Ouais, on le rappelle, ce film-là fait le pont entre la saison 5 et la saison 6. En revanche, un film qui est accueilli beaucoup plus fraîchement, c'est X-Files Régénération, qui sort en 2008, donc 10 ans plus tard. Et là, on arrive justement 5 ans après la fin de la série. Malgré le passé, le FBI reprend contact avec Mulder et Scully pour résoudre une affaire non classée. Et on est reparti sur un nouvel arc, alors qui s'attache davantage aux relations entre les deux personnages principaux, plutôt qu'un véritable retour aux sources.
C'est surtout le vrai propos, je pense, le moteur en fait dans ce film-là, c'est la crise de foi, sans mauvais jeu de mots, de Scully. C'est-à-dire qu'elle est tout bib, elle s'occupe beaucoup d'enfants malades et elle a des doutes en fait sur sa foi, quoi, tout à coup qui est fissurée, quoi. Et tout le film va être là-dedans en fait, donc il va y avoir une mise en page. Je trouve ça bizarre déjà de le faire, parce que ce second film ne se présente pas du tout comme faisant partie de la mythologie, c'est-à-dire dans cette grande intrigue qui court sur la totalité de la série sur les extraterrestres et le complot international qui vise à nous cacher leur existence. Mais c'est un honneur complet. Et donc le choix est un peu particulier, et c'est assez bizarre de questionner de placer la question de la foi, surtout ce personnage-là, je trouve que c'est parce que la question de la foi, elle se pose vraiment profondément sur le rapport aux extraterrestres et au complot international. C'est là en fait où on en a besoin. La série de l'honneur, c'est assez bizarre, et en plus c'est pas très inspiré quand même. Je veux dire, le il y a un truc qui est un peu déstabilisant, c'est qu'il y a un personnage donc clairvoyant, d'un prêtre clairvoyant, et qui est un pédophile, et ça c'est pas une enfin c'est intéressant. C'est culotté quand même de le mettre, de le, j'allais dire mettre en branle, mais c'est mais en tout cas c'est culotté en fait de
c'est
de,
culotté, c'est pas mal aussi comme expression.
C'est pas mal, mais en fait de le lancer là-dedans. Mais alors, déjà c'est vachement embarrassant, moi je trouve du coup de revoir le film aujourd'hui avec le rapport solar et tout, donc ça c'est vraiment c'est pas simple quoi, mais
bah, on en avait déjà à foison hein, des scandales sexuels dans l'église à l'époque, donc c'était pas quelque chose aussi de si inattendu que
dans un truc de fiction et tout,
dans un truc
beaucoup,
grand
toi,
public il me semble je n'ai pas les titres en tête, mais enfin c'était quelque chose qui était déjà
d'accord,
on va dire quoi, que
ah bien, bien sûr évidemment, mais bon bref c'est en fait c'est je trouve surtout. Et il retourne à Vancouver aussi. Alors, bon, voilà, c'est pas. Mais donc il y a un tout petit peu de la saveur de la série qui émerge quand même de temps en temps. Mais c'est surtout, moi, je trouve le problème, c'est le manque d'inspiration du film en fait. C'est que X-Files, c'est ça. Hein, quand tu retournes à la base, hein, on théorise beaucoup là-dessus, mais c'est l'idée quoi. C'est avoir une idée, un truc cool quoi qui se passe. Et là, il y a putain, c'est cheap. Hein. L'idée, elle c'est pauvre quoi. Et c'est vrai que c'est un film qui est très très mal reçu, qui aurait pu relancer la série. Je me rappelle que Carter annonçait le troisième film ce sera à nouveau sur la mythologie et tout. Bon bah ça n'aura pas lieu parce que ça n'avait pas franchement lieu d'être quoi.
Et oui, parce que après X-Files finalement bah le cast est parti faire autre chose hein. Et David Duchovny est parti notamment faire ça. Fini les extraterrestres, on est dans quelque chose de beaucoup plus terre à terre, hein, c'est Californication. Donc la série qui s'est déroulée de 2007 à 2014 sur Showtime. Et David Duchovny y incarne Hank Moody, un romancier new-yorkais exilé à Los Angeles, séparé de la mère de sa fille, et qui consomme de la drogue, de l'alcool, qui séduit plein de femmes. Il est désabusé et sarcastique.
C'est un rôle de composition, quoi.
Il y a une petite touche Fox Mulder, mais bon, le cadre est quand même radicalement différent.
Je connais pas, en fait. J'ai jamais vu.
J'ai jamais vu que par petits bouts. Je crois que c'est Canal Jimmy qui avait été les premiers à diffuser ça à l'époque.
Moi, j'avais bien aimé parce que je retrouvais une certaine facette de Mulder, ce côté un peu le Mulder des mauvais jours qui était désabusé, qui était cynique. On le retrouve beaucoup plus poussé dans ce personnage de Hank Moody. Après, moi, je trouve que la série, j'ai décroché après la première saison. En fait, je trouvais que la première saison se suffisait à elle-même. Et alors, peut-être que j'aurais dû pousser, mais j'ai pas été convaincue par la saison 2, donc je n'ai pas continué au-delà. Mais en tout cas, elle a continué quand même, donc un sacré temps. Il y a eu 84 épisodes au total. Et puis, c'est pas tout. David Duchovny, depuis entre 2015 et 2016, a travaillé sur la série Aquarius, qui était diffusée sur NBC. Et là, il incarne un sergent, Sam Hodiak, dans les années 60, à Los Angeles, et qui va être aidé dans l'enquête sur la disparition de la fille d'un grand avocat de la ville par un agent sous couverture. Cette enquête les mènera à Charles Manson. Donc là, on est beaucoup plus ancré dans la réalité à nouveau.
Et il reprend un rôle pas commun qu'il avait déjà tenu dans Twin Peaks à l'époque, qui est celui de l'agent transsexuel Denise Brison. Et il le reprend dans le reboot de 2017 de Twin Peaks.
Effectivement, ouais. Oui, il y réapparaît à nouveau. Alors ça, c'était pour David Duchovny. Et puis Gillian Anderson, elle aussi, fait plein d'autres choses après X-Files. Elle participe à la série The Fall, à Hannibal notamment. Alors c'est drôle parce qu'on parlait justement de l'influence du Silence des Agneaux sur X-Files. Et finalement, c'est un peu le retour à l'envoyeur.
Mais c'est la fin, en fait. Enfin, pour moi, hein, la série, c'est un peu la fin. Moi, Gillian Anderson, je crois qu'elle est retournée au théâtre aussi.
Elle est retournée.
Ouais. Et moi, j'aime bien ce qu'elle fait avec Maria Thatcher dans The Crown. Bon, elle est maquillée et tout, quoi. Mais du coup, c'est bien parce qu'elle s'est faite un peu trafiquer le visage, en fait. Malheureusement, elle n'assume pas son âge. Et du coup, elle est maquillée dans The Crown et il y a un truc qui se passe qui est vraiment bien. Et elle est assez étonnante dans un truc qu'avait déjà Scully, hein, qui est le côté extrêmement rigide. The Crown a au moins cet atout-là de pas être. Il te dit que Margaret Thatcher est une mauvaise personne. Hein. Bon, d'accord, évidemment, tout le monde le sait, mais il t'explique un peu qui c'est et ils ont à cœur de te montrer le côté populaire, touchant, complètement en rupture de banc par rapport à la famille royale. Et ça, et elle le joue bien en fait. Elle a quand même une faculté à le camper qui est pas si évident que ça, quoi. Elle surjoue un tout petit peu quand même, faut l'avouer, mais elle est plutôt pas mal, quoi.
Et alors, il faut dire que des rôles historiques, elle en a un autre sur le feu, puisque en 2022 va sortir The First Lady, oui. Donc une nouvelle série dans laquelle elle incarnera Eleanor Roosevelt. Voilà, à nouveau un morceau d'histoire. Et puis en attendant, depuis 2019, elle joue également sur la série Netflix Sex Education. Alors, c'est pas le personnage principal, hein. Elle incarne la mère du personnage principal de cette série, qui s'appelle Otis, qui est un lycéen. Et dans cette série, Gillian Anderson donc est psychologue sexologue et son fils va ouvrir un cabinet de sexologie au sein de son lycée. Pour ceux que ça intéresse, la saison 3 est sortie sur Netflix au mois de septembre.
Et elle réendossait le rôle de professeur en ufologie dans un film qui s'appelait tout simplement UFO en 2018. Là, sur le coup, enfin, en jouant clairement de son image de Madame Scully, quoi.
Alors, on va conclure cet épisode en parlant un petit peu des autres legs qu'il y a eu au-delà des séries et des films. Alors, il y a eu des jeux vidéo, il y a eu des jeux de société, il y a même un magazine qui a été édité en France. Il était livré avec sa carte FBI personnalisée. Moi, j'avais ma petite étiquette. Mais il y a eu d'autres effets sur la société bien plus importants que ça. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Scully Effect?
Oui.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit?
Le Scully Effect, c'est l'effet que Scully a eu sur plein de petites filles, dont Clémence Guédon, à l'époque. Et le fait que c'était même... Le personnage n'a pas forcément été prévu ou pensé comme ça, mais c'est devenu un rôle modèle assez clair, justement, pour toutes les raisons qu'on a développées dans les émissions précédentes, qui est le caractère, totalement indépendant du personnage, le fait qu'elle trace son chemin dans cette société. Que généralement dans ces séries là c'était le héros masculin qui était la voix de la raison, du rationalisme, et que du coup c'est elle qui l'incarne dans X-Files. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre d'elle? Voilà, elle est volontaire, elle a pas peur de s'engager dans le danger. Enfin bon, elle a tous les éléments en fait, quoi.
Et puis elle incarne aussi la rationalité et la science.
Oui.
Et en fait, cet effet, ce Scully Effect, a été montré par une étude très sérieuse qui a donc mis en évidence que les femmes qui ont regardé la série avaient plus tendance à poursuivre des carrières dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Mmh. Donc Scully a réellement créé des vocations. Et
aussi
voilà.
Parce qu'on la voyait régulièrement dans ses accoutrements. Comme je crois que je le disais dans un épisode précédent, on sent que sa zone de confort à elle, c'est d'être avec une blouse blanche et des grosses lunettes dans un laboratoire. Elle est bien dans cet endroit, dans cet environnement-là. Et la série te le montrait, que c'était son environnement à elle. Du coup, ça rendait la chose pas effrayante, pour une jeune fille, de se dire, mais peut-être que je pourrais me développer dans cet univers. Oui.
C'est ça. Et deux tiers des femmes interrogées dans cette étude, et qui travaillent dans le domaine, ont déclaré que Scully avait été un véritable modèle pour elles.
Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est vraiment d'insister sur l'idée que ça a marché parce que c'était pas prévu. C'est-à-dire, si ça avait été un gavage d'oie en disant, regarde, on t'a fait un rôle modèle sur mesure, petite fille, prends-en de la graine, ça n'aurait, là, c'est, le personnage, il est organique, il a été pensé justement en tant que personnage. L'idée, c'était de la faire exister et de la rendre crédible. Et du coup, pour toutes les gamines, oui, elle est crédible. Et c'est une scientifique.
Et c'est marrant parce que je pense qu'elle est encore plus restée que Mulder, en fait. quelque part. C'est-à-dire que tous les deux, ils vont avoir énormément de références dans la culture pop qui va suivre, dans les Simpsons, évidemment. Mais par exemple, dans Spaced, les allumés, je crois, en VF, oui. la série de Edgar Wright, il fait référence à Gillian Anderson. Je crois qu'il est amoureux, plus ou moins, d'elle et tout, quoi. Et je pense aussi qu'il y a ce truc aussi où la séduction, le côté séduisant, en fait, du personnage ne vient pas de là où on l'attend de prime abord aussi, qui va faire beaucoup pour le fait qu'on se souvienne d'elle, en fait. De façon pérenne, quoi. Ça va être vraiment, voilà.
Oui, c'est sûr qu'on a à la même époque une série comme Alerte à Malibu qui pose une autre vision, on va dire, de la féminité. Mais c'est intéressant qu'effectivement un personnage comme Scully soit aussi devenu un personnage érotique, sans avoir besoin de retirer son accoutrement, en fait, de femme sérieuse et déterminée.
Ouais. Après, il y a l'impact aussi peut-être de la série sur la fiction américaine, non?
Tout à fait. L'idée, c'était pour conclure, c'était de parler justement de toutes ces autres séries qui cite X-Files. Et alors là, il y en a, mais un paquet hallucinant. Pour citer les plus connus, Les Simpsons, Breaking Bad, Buffy. Alors,
Les Simpsons, c'était carrément un épisode, un crossover.
Ouais. Ils jouaient en plus dedans, ils faisaient leur voix.
Hyper médiatisé, c'est-à-dire ça a été annoncé bien à l'avance que Mulder et Scully allaient apparaître dans Les Simpsons. Donc vraiment, l'idée, c'était de créer un événement. Évidemment, les deux séries étant produites par la Fox, ça facilitait la chose. Et donc, on peut le spoiler, hein, c'était Monsieur Burns, en fait, l'alien qu'on voyait à la fin, qui avait pris une espèce de substance qui le rendait gentil, et c'est pour ça qu'il illuminait une aura de lui.
Mais c'est surtout que le succès de la série en a influencé beaucoup, c'est-à-dire que on en parlait, je crois, dans un précédent épisode, mais t'as tout de suite des trucs genre Dark Skies qui sont arrivés, bon, qui n'ont pas fait long feu, mais par contre, disons que sur la longueur, par exemple, un mec comme J.J. Abrams, il s'est très clairement réclamé, en fait, de X-Files, et je pense, on en a aussi parlé dans un autre épisode, que sa théorie de la Mystery Box, il la tire aussi en partie probablement de ce que Chris Carter a fait sur X-Files. Et lui, une série comme Fringe, par exemple, et c'est clairement, Fringe, ouais. c'est clairement aussi une extension de X-Files. On parlait des Supernaturals, c'est carrément aussi une extension de X-Files. Et puis, ça a aussi ouvert, en fait, le champ des possibles à la télé.
Rien que dans la série policière traditionnelle, on va dire. Voilà, ça a complètement changé les choses. Je parlais tout à l'heure de la morgue, du rôle de la morgue dans X-Files. On n'a plus arrêté, par la suite, de voir effectivement des corps en action. Voilà, c'est ça, hein. Alors que c'était totalement inenvisageable dans les séries avant X-Files.
C'est-à-dire qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. Avant X-Files, on avait des séries de type procédural, comme les Law and Order, par exemple, où on était sur ce schéma, alors qu'on retrouve un peu avec les Monstres de la Semaine, les épisodes L'Honneur, mais qui vient être complètement perturbé par l'arc narratif autour du complot.
Que ce soit Columbo ou Starsky Hutch, ou je sais pas moi, ou même les NYPD Blues et autres, tu ne rentrais pas dans la morgue. On en entendait parler. On disait qu'on a reçu un fax du coroner et qu'apparemment il y aurait une balle. Mais là, simplement le fait de pouvoir mettre le pied dedans.
Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui a influencé tout le développement d'une autre série qui a eu un grand succès dans les années 2000. Toute la série des CSI, la franchise Les Experts, qui justement arrive encore un cran après dans la technicité.
C'est une possibilité, effectivement, tout à fait probable. Ou en tout cas, il y a quelque chose, encore une fois, qui a réussi X-Files à cristalliser quelque chose de très fort et qui va, c'est un marqueur, quoi, vraiment, réellement, indéniablement.
Bon, avant de clore ce chapitre, une dernière série qui a été aussi éminemment influencée par X-Files, c'est Buffy, on ne peut pas l'oublier.
Tout à fait. Oui. Avec un des réalisateurs d'X-Files à la barre, d'ailleurs, sur pas mal d'épisodes. Mais c'est clair que Buffy n'aurait pas existé si X-Files n'était pas passé.
En tout cas, pas comme ça, quoi. C'est sûr et certain, quoi. Et n'aurait pas été permis comme ça avec les. T'as le même côté Monster of the Week, par exemple, dans Buffy, dans certains épisodes, par exemple. Je pense aussi que ça a encore ouvert les portes, en fait. Quand tu vas voir les producteurs, tu dis, ah, mais regarde, ça cartonne. Bon, bah, tu peux plus facilement mettre des monstres avec des costumes de latex. Et ça. Clémence, ça, c'est merveilleux.
Mais ça, on aime. D'ailleurs, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé dans la diffusion française de X-Files. On a parlé de la diffusion américaine, mais en France, ça a commencé avec les Samedis Fantastiques. Et en général, les épisodes étaient suivis d'épisodes de Contes de la Crypte ou de Au-delà du réel, donc d'autres séries. Alors, on est plus dans la série B, mais en tout cas, d'autres séries qui traitent des thématiques.
C'est moins grand public, en fait. C'est surtout ça, quoi. Et en plus, les Contes de la Crypte, c'est une autre frange, en fait, de ça, de narration. C'est des comics à la base, et c'est les ici, et c'est pas tout à fait la même façon, en fait, d'appréhender et de rentrer, en fait, dans le fantastique. Et X-Files, encore une fois, a permis d'ouvrir ça à un pan du public qui ne serait pas allé dans ces, comment t'as dit, Rafik, tout à l'heure, les sombres recoins du vidéoclub, quoi. Mais c'est ça. Exactement ça,
mais
quoi.
C'est ça.
Ce coin où t'es allé, toi, et puis juste à côté, il y a les pornos derrière le petit rideau. Bah voilà, là, tu y allais plus volontiers, quoi.
Et c'est ce qui a ouvert la voie à la fameuse trilogie du samedi, dans laquelle Buffy est arrivée.
Et ça a fait exploser M6 aussi. Hein. Mm-hmm. X-Files, ça a contribué à faire de M6 une
chaîne qui compte.
Une chaîne importante.
Les parts de marché étaient sur certains épisodes étaient énormes.
Étaient énormes, bien sûr.
Bon, je crois qu'on pourrait encore en parler un petit moment, mais à un moment, il va falloir qu'on s'arrête, hein, qu'on ferme boutique. Julien, Rafik, merci de m'avoir accompagné sur cet épisode.
Merci beaucoup, Clémence.
Merci, Clémence.
Alors, c'est marrant parce que, est-ce que vous savez quand c'était la dernière fois qu'on a fait un épisode tous les trois ?
Je crois que c'était le Mandalorian.
Et ouais, effectivement, c'était la toute première collection, celle qu'on a débutée en janvier de cette année, celle sur le Mandalorian.
Comme pousse fougite, comme le temps passe.
Et voilà. Et d'une certaine manière, on peut dire que la boucle est bouclée. Car oui, alors j'ai la gorge un petit peu serrée en vous annonçant ça, mais
cet
épisode, c'était aussi le tout dernier de We Love Series. Notre podcast ne reprendra malheureusement pas en janvier. Alors, je tenais à vous remercier, Julien et Rafik, de m'avoir accompagné sur cet épisode et sur tous les autres.
Et les hommes en noir qui nous attendent dehors, là, d'ailleurs. Qui vont couper
on en a trop dit, là. Moi, j'aurais pas dû citer William Cooper, je suis foutu.
Merci, Clémence.
Et puis, un immense merci aussi à Stéphane Moïsakis et Alain Mercier, qui ne sont pas là, mais qui font partie de l'équipe. Et puis, merci à vous qui nous écoutez. Merci pour vos retours, pour vos encouragements et pour votre enthousiasme. We Love Series, c'est fini, mais vous pourrez continuer à réécouter ces 13 collections sur welovecinema.bnpparibas et sur vos applis. Et
puis, merci, Ninon. Il faut lui dire merci quand même.
Merci Ninon, merci Timothée
qui nous aide beaucoup.
Qui sont là en coulisses à nos côtés à chaque enregistrement. Et puis si la vérité est ailleurs, nous aussi, on est ailleurs. On espère bien vous retrouver au détour d'autres podcasts. Vous pourrez continuer à nous écouter dans les émissions de Capture Mag. On n'y parle pas de série, mais de cinéma, que ce soit pour analyser la sortie de la semaine ou revenir sur la carrière des plus grands réalisateurs. Donc Julien, Rafik, on se retrouve là-bas.
Bah oui, bien sûr.
À très vite.
Parce qu'une chose est sûre, on compte pas lâcher le micro. À bientôt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.